voix nue. Cette semaine, Virginie Bloch-Lainé rencontre Louis Chédid. Ce soir, le triangle Liban, Égypte et France.
Bonsoir Louis Chédid.
Bonsoir.
Anne Masserane, ainsi soit-il, t'as beau pas être beau, le soldat rose. Voici quelques-uns des succès de l'auteur-compositeur que vous êtes. Vous avez 22 albums et 45 ans de carrière derrière vous. Votre premier 33 tours est sorti en 1973.
Oui, exactement.
Vous nous recevez chez vous, à Paris, pour ces entretiens. Alors, nous en parlerons au cours de la semaine. Je vous demanderai de définir la tessiture de votre voix et l'atmosphère de vos chansons. Je dirais qu'elles sont à la fois graves et douces. L'auditeur associe sûrement votre nom à celui de votre mère, André Chédid, romancière et poétesse, disparue en 2011. Mais l'on connaît moins votre père, qui était aussi très brillant dans sa discipline, qui était la biologie. Pour commencer, Louis Chédid, est-ce que vous pouvez expliquer ce triangle Liban-Égypte-France ?
Expliquer, il n'y a pas d'explication à donner. C'est juste que la famille est originaire du Liban. C'est des Chédid libanais. Il y a des Chédid un peu partout dans l'Orient, mais c'est un nom assez répandu. Mais nous, on est d'origine libanaise et on est des maronites, en fait, c'est des chrétiens, ce qu'on appelle les chrétiens d'Orient maintenant, des maronites qui, à la fin du 19e, des conflits entre les musulmans et les chrétiens à l'époque, et donc il y a eu quand même des exactions, des massacres, des trucs comme ça, et donc mon arrière, je sais pas quel stade, et grand-père est parti, il avait 17 ans, et il est parti en Égypte avec sa mère à pied, ils ont fait 1000 km à pied et ils sont arrivés en Égypte, et il était pauvre et donc il a commencé à acheter il y avait la cueillette du coton à l'époque, et donc il a acheté un arpent de terre dès qu'il avait un peu d'argent, un autre, et à la fin de sa vie, il avait des terrains à non plus finir, et c'était un grand industriel du coton. Voilà, c'est un peu la légende de la famille, lui. Et ensuite, mes parents, ma mère est née au Liban, mon père en Égypte, je crois, mais je suis pas certain. Et ils étaient très attirés par la France et par la culture française. C'était dans les lycées où ils étudiaient. En fait, on apprenait d'abord le français, d'abord l'anglais, ensuite le français et à la fin l'arabe, quoi. Donc ils savaient parler trois langues comme ça et ils étaient fascinés par la France. Et donc quand ils se sont mariés, à l'âge de 22-23 ans, ils sont venus s'installer à Paris. Et moi, je suis né en Égypte, mais je suis arrivé à Paris, j'avais 6 mois. Donc en fait, je suis parisien depuis toujours, quasiment.
Vous êtes né en 47, fin de l'année, ouais, l'extrême fin de l'année
31 décembre 47, à minuit moins le quart. Et donc on m'a mis au 1er janvier.
Et vos parents partent tout de suite,
six mois après.
Alors que les départs vers la France se font plutôt à la fin des années 50 pour beaucoup de familles.
Oui, sûrement. Mais bon, eux, ils étaient vraiment attirés comme des papillons sur la lumière par Paris, par la France. C'était un fantasme pour eux. C'était vraiment le pays de la culture, des lumières, de l'intelligence, de plein de choses qui les fascinaient, et ils avaient envie d'en faire partie.
Et votre père était médecin ?
Il a fait des études de médecine, mais il était biologiste, en fait. Il était biologiste, il a travaillé à l'Institut Pasteur, il a travaillé au Collège de France. Et il a eu une carrière scientifique assez remarquable, assez remarquée. Oui.
Est-ce qu'il y avait quelque chose d'oriental dans le caractère et dans la façon de vous élever
Oui, bien sûr, vous savez, c'est toujours... un oriental, il est beaucoup plus charnel, tactile, beaucoup plus démonstratif. Donc moi, j'avais des parents très démonstratifs, très, très embrasseurs, très, très chaleureux, très... Oui, donc il y a ce côté-là, par rapport à certains de mes camarades qui avaient des parents beaucoup plus stricts, beaucoup plus radicaux, qui avec une éducation très carrée comme ça. Moi, c'était beaucoup plus poétique, disons. Ouais.
Et votre père s'intéressait à ce que faisait... Enfin, était aussi un intellectuel.
Oui, 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 c'était un... Il dit souvent, d'ailleurs, que c'est un peu un artiste frustré, c'est-à-dire qu'il aurait beaucoup aimé avoir une vie artistique.
Ils sont retournés en Égypte, ou vous êtes retourné avec eux, vous aviez des vacances?
Non, avec eux jamais, mais moi je suis retourné, oui, je suis retourné, mais j'ai attendu longtemps avant d'y aller. J'ai attendu jusqu'à l'âge de 25 ans pour y aller, parce que j'étais tellement imbibé d'images, et puis aussi à l'école, on étudie l'Égypte. Donc, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images, et j'avais peur d'être déçu en y retournant. Et en fait, à 25 ans, donc j'ai attendu 25 ans pour y aller, et puis à 25 ans, j'y ai été, et dès que j'ai posé le pied sur le sol de l'aéroport, hein, au Caire, etc., voir les gens et tout, je me sentais vraiment chez moi, quoi. C'est des racines qui vous poursuivent, ouais.
Vous êtes allé au Liban aussi?
Oui, bien sûr. J'ai été au Liban aussi, oui. Avant la guerre, j'ai été au Liban. Quand j'étais très, très jeune, ado. Et puis, je suis retourné pour faire un concert il y a une quinzaine d'années. J'aime beaucoup, hein, c'est des pays que j'adore.
Est-ce qu'il y avait chez vous Louis Chédid à des dîners ou à des repas, des intellectuels que fréquentaient vos parents,
oui,
qui étaient
défunts? Oui, oui, il y avait beaucoup de... il y avait des écrivains, il y avait des artistes comme ça, et puis aussi des plasticiens, des peintres, des sculpteurs, des gens de... Mes parents étaient très curieux, donc ils connaissaient pas mal de monde dans ce milieu, dans le milieu artistique. Et les gens se mélangeaient beaucoup plus à l'époque qu'aujourd'hui, où chacun est dans son précaré. Mais à l'époque, oui, ça se mélangeait beaucoup.
Vous avez eu une enfance dans le 6e arrondissement. Ils étaient installés.
Ouais, j'ai cette chance incroyable d'habiter à Rue Guynemer, au-dessus du Luxembourg, et d'aller au jardin en traversant la rue. Ça, c'était vraiment un truc inouï.
Vous avez écrit le dictionnaire de ma vie.
Ouais.
C'est un abécédaire avec des entrées choisies par vous. C'est
écrit
sélectif,
complètement,
c'est subjectif. Ouais. Vous dites à enfance que la vôtre fut, à l'entrée enfance, que la vôtre fut mi-figue, mi-raisin.
Oui, oui, absolument. Oui, oui. Non, parce qu'en fait, dans la scolarité prend évidemment énormément de place dans le parcours d'un enfant, d'un adolescent, etc. Et moi, j'ai pas du tout aimé ça. C'était le côté un peu sombre de l'histoire. Et puis après, il y a évidemment des choses extrêmement positives aussi, qui m'ont nourri énormément, quoi. Mais disons que c'était effectivement les deux. Je peux pas dire que j'ai eu une enfance absolument heureuse de point en point. Non.
Vous étiez scolarisé dans une institution catholique.
Oui, catholique, exactement, avec des curés. Juste à côté, d'ailleurs, on habitait aux deux Rue Guynemer, et là, c'était une école qui s'appelait l'école Bossuet, qui est juste toujours, d'ailleurs, et qui était tenue par des curés. Et c'est vrai que c'était avant 68, donc c'était vraiment une éducation à la schlag, quoi. C'était pas rigolo. À l'époque, la religion était beaucoup plus présente dans l'éducation qu'aujourd'hui, où elle l'est plus du tout. Ça se faisait de mettre ses enfants dans des écoles religieuses.
Vous étiez croyant, vous, Chédine ?
Quand on est petit, on est influençable. Donc oui, c'est sûr qu'il y a... J'étais croyant à cette époque. J'étais pratiquant aussi, parce que je servais à messe, je faisais des trucs comme ça. Bon, il a fallu attendre un petit peu pour que je me détache de ça, disons. Mais oui, bien sûr, on est un peu encadré, embarricadé, embarqué là-dedans, hein, quand même.
Et en vous en détachant, vous êtes devenu anticlérical, ou c'est détachement paisible?
Non, je suis anti... comment dire anti-liturgique, le rite, enfin, vous voyez ce que je veux dire, le côté... je vais pas à la messe, j'écoute pas les sermons. J'en ai tellement entendu de sermons à une époque que j'avoue que ça m'a un peu... J'ai eu ma dose, disons. Mais enfin, je crois quand même en quelque chose.
Vous faisiez partie des petits chanteurs à la Croix de Bois. Ça, c'était une obligation ou c'était
non,
un choix?
Enfin non, c'était les curés... qui s'occupait de ça passait dans les classes et vous faisait chanter pour voir la tessiture de voix que vous aviez, etc. Et puis, l'oreille musicale ou pas, si vous chantiez juste ou pas, voilà. Ils vous embauchaient si ça leur paraissait bien. Et moi, j'avais sûrement une jolie voix à l'époque. Et donc, voilà, donc je suis rentré là-dedans. Non, mais c'était très agréable parce que c'était d'abord, on séchait les cours pour faire ça. Donc ça, c'était bien. Et ensuite, c'était le début de quelque chose d'un peu artistique. Donc c'était autre chose que d'apprendre des maths ou d'apprendre la science. Voilà. Donc oui, j'aimais beaucoup.
Et vous preniez du plaisir, vous vous rendiez compte que chanter vous
donnait... Oui, enfin, je me souviens pas, hein, c'est tellement loin, mais en tout cas, oui, je pense que je prenais vraiment du plaisir, et puis j'adorais, de toute façon, quand j'entendais des chansons à la radio, des choses comme ça, les reproduire tout de suite, comme ça, j'avais l'oreille vraiment musicale, donc être dans la chorale, c'était sympa, ouais.
Vous vous souvenez, Louis Chédid, si vous, à l'âge de 10 ans ou 12 ans, vous pensiez être chanteur et compositeur?
Non, je ne pensais pas du tout à ça, non. Non, c'est totalement abstrait, là. Non, je rêvais de ne plus être à l'école, ça c'est clair, et donc d'être libre, quoi, de pouvoir faire ce que je voulais, etc. Mais bon, l'échéance, elle était loin, hein, c'était à 10 ans, ça, un truc comme ça. Mais être artiste, non, je n'avais pas de notion du tout de ça. Non.
Il y avait de la musique chez vous, souvent?
Un petit peu, mais plutôt la musique classique, la musique sérieuse, des choses comme ça. Bon, ma mère adorait les chansons, elle écoutait pas mal de chansons quand même.
Des chansons françaises?
Ouais, des chansons françaises. Voilà, donc j'ai entendu Petit Brassens, j'ai entendu Ferré, j'ai entendu pas mal de gens. Mais moi, quand j'étais ado, j'étais beaucoup plus intéressé par les chanteurs anglo-saxons, par toute la vague de groupes incroyables qu'il y avait, comme les Beatles, les Stones. En fait, tous ces gens-là sont sortis quand j'avais 12 ans, moi.
Oui.
Donc, je veux dire, c'est un choc musical, esthétique, incroyable.
Votre adolescence se passe au milieu des années 60, années 60.
Voilà, c'est ça, oui. Ouais.
Et est-ce que produit la France comme chanson vous paraît...
Un peu désuet pour moi. Enfin, c'était pas du tout la musique que j'écoutais, comme d'ailleurs souvent les ados aujourd'hui, ils écoutent pas trop les chanteurs français traditionnels, ils écoutent plutôt des trucs de anglais ou américain ou du rap, enfin bon, et voilà, nous c'était pareil, hein, on écoutait beaucoup plus tout ce qui était chanteur français, si vous voulez, soit c'était des chanteurs de la génération de nos parents, des Brassens, des gens comme ça, soit c'était un petit peu variétoche, qu'on disait, enfin bon, on avait à tort d'ailleurs, hein, parce que franchement il y a des choses formidables à l'époque, mais voilà, on écoutait beaucoup plus les trucs anglo-saxons.
Il y a un lieu important qui est le titre d'une de vos chansons, c'est Bouc Bel Air.
Oui, absolument.
Un drôle de nom. Moi, quand je l'entendais, je me disais que ça devait être en Bretagne.
Non.
Pas du tout, c'est à côté d'Aix-en-Provence.
Oui, exactement. C'est un village où mes parents avaient acheté une petite maison sur une colline, dans une pinède, et qui est juste à côté d'Aix-en-Provence, c'est à, je sais pas, 10 minutes d'Aix-en-Provence, et c'est un village où j'ai passé toutes mes vacances d'été, de 6 ans à 12, 13 ans. Et après, ils l'ont vendu, mais c'est un endroit qui m'a totalement marqué, parce qu'en plus, c'était aussi, si vous voulez, le moment où j'étais en vacances, quoi. Donc j'avais plus cette espèce de pression de l'école... C'était juste du plaisir. Donc c'est vraiment un endroit qui m'a marqué. Et d'ailleurs, à tel point que aujourd'hui encore, je vais dans ces coins-là. Je vais pas à Bouc Bel Air, mais à côté, et j'ai un endroit. Et je pourrais pas me passer d'avoir un endroit là-bas. Je pense que même, Dieu sait que j'adore Paris, mais si je devais choisir entre les deux, je me demande si je choisirais pas le sud.
Vous écrivez mieux quand vous êtes dans le sud.
Non, vous savez, quand vous écrivez bien partout. Enfin, quand vous êtes dans l'état d'écriture, ça marche partout. Mais il y a une qualité de vie complètement différente, il y a une qualité d'air qui est complètement différente. Vous êtes dans la nature, enfin, il y a plein de choses qui font que c'est très différent de Paris, quoi, c'est sûr. Et les gens sont quand même vu que le climat est beaucoup plus clément aussi, les gens ont quand même plus de... sont plus à corte. Enfin, je veux dire que, qu'à Paris, on regarde le ciel. Enfin, il y a plein de choses qui font que être à la campagne, déjà, ça change complètement la vie de tous les jours.
Vous écriviez, vous teniez déjà votre journal, Louis Chédine, adolescent ?
Non, adolescent, non. Non. Mais j'aimais bien écrire des petites histoires, des trucs comme ça. En fait, j'ai fait beaucoup de choses. Quand dans ma tête, je me suis dit je serai artiste plus tard, sans trop savoir ce que ça voulait dire, mais enfin, en me disant que je devais avoir 12, 13 ans. Et donc, comme je savais pas quoi, j'ai un peu tâté de tout. J'ai un peu dessiné, j'ai un peu peint, j'ai un peu... J'ai fait de la photo, j'ai fait du cinéma aussi, enfin bon, tourner des petits films comme ça, et de la musique, enfin plein de choses. Et voilà, et puis après, on prend une voie, mais je ne savais pas au départ. Tout ce que je savais, c'est que je voulais être libre. Ça, c'était ça, le premier truc. Et en plus, enfant des années 60, hein, parce que je veux dire, et puis avec 68 en plus après, tout ça. Et donc, enfin, il y a beaucoup de choses qui se sont libérées. Le respect aux adultes avant 68 et après adultes, professeurs, etc., ça a complètement changé. C'était plus du tout la même chose. Et ouais, il y avait tout ça, mais c'est vrai que moi, dans ma tête, je me disais quand je serai grand, entre guillemets, je ferai exactement ce que je veux.
Vous avez eu votre bac, donc j'ai dit, en 68.
Ouais, très tard. Ouais, à
20 ans et quelques mois. Très tard. Et alors, là, vous avez pointé une des bascules de 68, le rapport aux adultes, mais ça, c'était valable aussi dans votre famille, enfin.
Non, parce que moi, j'avais pas une famille de gens contraignants, si vous voulez. J'ai une famille plutôt d'artistes déjà. Ma mère est assez ouverte, vous voyez, je veux dire. Mais je voyais chez à l'école ou tout ce qui était maître, professeur, etc. Il y a eu une vraie bascule, quoi.
Elle était sensible rapidement.
Oui, elle était sensible rapidement, oui, bien sûr, oui. Ouais, les profs ont eu un peu peur, hein, au moment de 68, parce qu'ils avaient l'impression qu'ils allaient terminer sur un... On appelle ça la révolution de mai 68, mais c'est pas pour rien qu'on l'appelle la révolution, parce qu'il y a eu des moments très, très chauds, hein, quand même. Il y a des gens qui se sont fait peur. Bon, après, ça n'a jamais été au-delà de... Bon, enfin, les barricades, tout ça, moi, j'assistais à ça. Je veux dire, c'était violent, hein, très violent. Les flics qui tapaient, qui matraquaient. Parce qu'on matraquait, là, je veux dire, on n'était plus dans le... Dans la... Il n'y avait pas de... Et les gaz lacrymogènes. Moi, j'habitais au boulevard Saint-Germain, au-dessus des barricades. Voilà, je les voyais là. Et je peux vous dire qu'il fallait fermer les fenêtres, parce qu'il y avait de la... Les gaz lacrymogènes, c'est quelque chose, hein.
Et l'atmosphère vous plaisait ou vous faisait peur ?
À la fois, très honnêtement, ça fait un peu peur parce que c'est quand même, vous avez l'impression d'avoir la guerre dans la rue. Et à la fois, oui, il y a quelque chose d'exaltant. Mais d'exaltant, les discours, les... Oui, c'est un mélange. C'est vraiment un mélange. Il y a des choses qui sont très moches et des choses dans toutes les révolutions. Hein, la Révolution française, c'est une des Tout le monde parle de la Révolution française en disant c'est quelque chose d'extraordinaire, heureusement que ça existait. Oui, peut-être. Et à la fois, c'est sanguinaire comme c'est pas permis. On a coupé la tête des gens, on les a mis sur les pics, on a éventré des femmes enceintes. Enfin, c'est des trucs atroces, quoi. Je veux dire, c'est un mélange.
Vous étiez politisé, Louis Chédine, à l'époque ?
Non, je n'étais pas politisé. Non, bon, on n'avait pas le droit de faire de la politique à l'école. Hein. On n'avait absolument pas le droit. C'était absolument interdit. Après, ça a complètement changé. Justement, voilà, ça c'est une autre bascule. Mais non, je n'étais pas vraiment politisé. Il y avait De Gaulle. De Gaulle, je ne dirais pas qu'il faisait l'unanimité, mais c'était quand même une figure. Ouais. C'est comme Churchill, c'est comme des gens comme ça. Et puis franchement, ça ne m'intéressait pas du tout. Comme beaucoup d'adolescents aujourd'hui, je veux dire, la politique, ça leur passe au-dessus de la tête, quoi, complètement. C'est pas la... Voilà, non, pas vraiment. Après, évidemment, 68 a fait que je me suis rendu compte des différentes tendances, droite, gauche, communiste, machin, etc. Extrême droite, enfin, extrême droite était très basse à l'époque, non, je ne m'intéressais pas vraiment à ça.
Et vos parents ?
Là, ça, je me souviens pas.
Vous vous souvenez pas de leurs commentaires sur mai 68 ?
Non. Ça, vraiment, je me souviens pas. Pas du tout.
Vous avez eu comme professeur, Louis Chédid, Maurice Clavel.
Ouais. Maurice Clavel, c'était un philosophe écrivain. Et un peu Barjot, un peu... Et ça, c'était quand j'étais dans des cours privés, parce que, comme vraiment, j'étais plutôt en échec scolaire, moi, il a fallu que je quitte le lycée, et puis je me suis retrouvé dans des cours privés, bachotage, qu'on appelle. Et donc, un jour, on l'a vu en cours de philosophie, en remplacement, ce fameux Maurice Clavel qu'on avait déjà vu à la télé et tout ça, parce que c'était un mec assez connu, qui venait nous donner des cours. Et c'est vrai que c'était un des cours les plus spectaculaires que j'ai vu de ma vie, parce que c'est vraiment un truc qui m'a marqué. Il arrivait, il mettait ses pieds sur la table, sa table de professeur, sans aucune cérémonie, et puis il nous faisait des cours magistraux, et c'était vraiment les cours les plus intéressants que j'ai jamais entendus, de philo surtout, parce que c'est âpre la philo, et lui, il vulgarisait vraiment beaucoup. Puis voilà, ça a duré 3 semaines, je crois. Il faisait juste un remplacement, quoi. Ouais. Mais bon, c'est de tous les professeurs... J'ai pas eu la chance, moi, d'avoir des professeurs très... qui m'ont... vous savez, il y a des gens qui racontent qu'ils ont rencontré des professeurs qui leur ont changé la vie et tout ça. Moi, ça ne m'est jamais arrivé.
C'était avant le fameux « Messieurs les censeurs, bonsoir ». Parce que voilà, ça, je crois que c'était en 71. Donc
c'était
vous,
juste...
C'était avant.
Exactement. Oui, c'est ça. C'était juste... Ah non, je crois qu'il l'avait fait, le monsieur les censeurs, non ?
C'était 71. Je crois que c'est 71, oui.
Alors, oui.
Mais il était déjà célèbre.
Oui, il était connu, oui, c'était un écrivain célèbre. Et puis, il faisait des chroniques dans un journal. Enfin, il était très actif, quoi. C'était une espèce de. Comment on pourrait appeler ça ? Et puis, une grande gueule, donc vraiment, c'était quelqu'un de. Identifié, quoi, vraiment.
On en parlera davantage demain soir, mais lorsque vous avez eu le bac, vous n'aviez pas reçu de cours de musique.
Non.
Vous n'avez pas...
J'ai jamais reçu de cours de musique.
Donc,
J'ai jamais reçu, parce que ma sœur, qui est plus âgée que moi, avait eu des cours de piano avec une prof qui était vraiment complètement... autoritaire et épouvantable et qui a traumatisé ma sœur complètement et ça l'a dégoûté à vie de prendre des cours de musique. Et donc mes parents se sont dit on va pas imposer ça au deuxième, donc j'ai zappé les cours de musique. Mais peut-être que c'est sûrement pour mon bien, parce que si j'étais tombé sur cette prof là peut-être que ça m'aurait dégoûté définitivement aussi, donc...
Et votre sœur a choisi est artiste aussi ?
Oui, elle est peintre. Elle fait des peintures. Ouais. Elle fait des tableaux. Ouais. 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 Ouais.
Dans ces années-là, Louis Chédid, adolescent et n'étant pas encore musicien, est-ce que vous rencontrez des...
Mais j'étais musicien,
N'en faisant pas encore votre, métier. Est-ce que vous rencontrez des gens qui, avec lesquels vous travaillerez plus tard, donc jusqu'à vos 20 ans, est-ce qu'à l'adolescence, vous...
Non. En fait, moi, je voulais faire du cinéma. Et donc, j'ai commencé là-dedans et j'ai commencé à faire du montage et j'ai très jeune, j'avais 22 ans quand j'étais à la Gaumont et j'ai commencé à faire du montage et j'ai gagné ma vie très vite et tout. Et parallèlement à ça, je faisais de la musique pour mon plaisir, quoi, vraiment. Et je commençais à faire des chansons, mais vraiment pour mon plaisir aux heures creuses, je sais pas comment on dit. Et puis j'avais un copain réalisateur pour lequel je travaillais qui qui a écouté ce que je faisais et qui m'a dit, je connais quelqu'un chez Barclay, si tu veux, je peux t'emmener le voir, et on lui fait écouter ta bande, et ça a démarré vraiment comme ça, quoi. Et il a écouté, François Bernheim, il s'appelle, il a écouté, c'était un jeune directeur artistique, il a écouté, ça lui a plu, et j'ai fait un premier album comme ça. Et là, je me suis retrouvé dans cette espèce de... le plaisir que je connaissais pas, en fait. Donc... voilà, j'ai adoré ça et je me suis dit, ça c'est vraiment un truc pour moi.
Et la musique que vous faisiez avant de faire ce premier album, c'était la musique des autres que vous jouiez ou vous...
Non. Oui, alors ça m'était arrivé beaucoup plus jeune de faire des petits groupes au lycée comme ça où on jouait les morceaux du hit parade, comme on dit, et voilà, on jouait ça. Mais dès que je me suis mis à faire des chansons, non, je faisais mes trucs.
Et alors, elle ressemblait à ce qui se faisait à l'époque, et c'était très différent de ce que vous alliez faire plus tard, ou c'était...
Oui, enfin non, vous savez, les premiers disques, et puis heureusement, on évolue peut-être pas dans le bon sens. Hein, je veux dire, entre le premier disque et le 15e, y a évidemment, heureusement, des différences. Mais l'esprit, les thèmes, etc., tout ça, on traite toujours à peu près. Il n'y en a pas des masses de thèmes, en fait. Hein, je veux dire, il y en a 3-4 maximum. Et on tourne toujours autour de ça. C'est l'angle qu'on y met qui fait la différence, en fait. C'est la façon de le dire, c'est la façon de raconter. Chaque auteur, il a sa façon de raconter. Vous donnez le même thème à 10 auteurs, ils vont vous faire 10 trucs complètement différents. Parce que les thèmes sont tous les mêmes, hein. L'amour, la vie, la mort, la douleur, la souffrance, le plaisir, la joie, enfin, mais tout ça est dans l'amour, là. Voilà.
Merci Louis Chédid, à demain soir.
Génial.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Virginie Bloch-Lenné avec Louis Chédid. À voix nue, réalisation Clotilde Pivin, prise de son Yves Lehors, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.